Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Ça c'est le coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes.
On a presque envie de dire coucou du coup. bienvenue sur Europe 1. C'est un plaisir de vous accompagner une nouvelle fois de si bon matin. Excellent réveil ce 14 avril. Une bise en particulier au Maxime aujourd'hui puisque c'est votre fête.
Je fais que passer ma route. T'as vu.
Voilà, ne faites pas comme Maxime Le Forestier, s'il vous plaît, ne passez pas votre route, restez avec nous, restez à l'écoute de votre petit matin. On est ensemble, avec plaisir, jusqu'à 6h30. Dans l'actualité, Fanny, ce 14 avril.
Emmanuel Macron est au Havre aujourd'hui sur le thème de l'écologie. Au programme, échange avec des dockers sur le port, puis rencontre des salariés de l'usine tout juste née de production d'éoliennes en mer. L'occasion de s'intéresser ce matin aux promesses environnementales des deux candidats à la présidentielle.
Et c'est déjà mal parti, ces résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2022 sont une défaite pour le climat et plus largement pour l'environnement. C'est ce qu'on peut lire sur la page Twitter de Greenpeace France.
Et son directeur général Jean-François Julliard sera en direct avec nous à 6h10 pour voir lequel des projets de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron est le plus vert. Et puis le week-end de Pâques qui approche, on va en parler également. On va parler chocolat, Ondine.
La chasse aux œufs, aux poules, aux cloches en chocolat est bientôt ouverte. Après Noël, c'est la période de l'année où l'on consomme le plus de chocolat. Mais comment faire pour en consommer mieux ?
Une question qui se pose particulièrement en ce moment, alors que la marque Kinder se retrouve au cœur d'un scandale alimentaire de grande ampleur.
On va se demander aussi s'il est possible de s'offrir des chocolats d'exception sans se ruiner. Notre invitée à 5h45 est journaliste gastronomique, Nathalie Hellal, et notamment l'auteur du dictionnaire exquis du chocolat.
Et enfin, on terminera avec votre partition. Bline.
Cheveux longs, moustache taillée. Ça, c'est un groupe pour bikers en Californie. La partition des Doobie Brothers à 6h20 ou le son typique californien rock jazzy des années 70.
On a hâte, vous avez l'essentiel du programme et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Fanny, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon, il y a de l'espoir, on va vers le mieux aujourd'hui.
Ah bah oui, alors on va vers un week-end pascal, je ne vous dis que ça. Il va falloir se dépêcher de trouver les œufs dans le jardin parce que sinon ils risquent de fondre. Hein. On va avoir des températures dignes d'une fin mai ce week-end avec un soleil radieux. Donc aujourd'hui, il nous reste encore un petit peu de la perturbation d'hier entre l'Auvergne et le Grand Est où là on a un ciel couvert mais sans pluie. Prudence ce matin sur le grand quart nord-ouest, des Landes jusqu'aux Ardennes en passant par le centre, les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le bassin parisien. Dans toutes ces régions, on a beaucoup de brouillard ce matin, prudence sur les routes. Et puis cet après-midi, c'est le beau temps qui domine mais ça reste menaçant en Auvergne-Rhône-Alpes avec même un risque d'orage. Les températures très douces encore, 4 pour Aurillac, 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Nice. Cet après-midi, on aura 13 degrés à Dunkerque, 21 à Paris et Ajaccio et 26 pour Nîmes.
Avec des nouvelles comme ça, vous pouvez revenir tous les jours. Hein. Merci.
Je reviens
beaucoup.
Dans une demi-heure.
Ah, fantastique, ça va nous mettre de bonne humeur. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Le duel Macron-Le Pen après les retraites, l'Europe. Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen de vouloir sortir de l'UE. La candidate s'en défend et prône une Europe des nations. La fin d'une chasse à l'homme de 24 heures à New York. Le tireur présumé du métro qui a fait 23 blessés arrêté et poursuivi pour attaque terroriste. Décryptage de son profil à suivre. Et puis le Covid, mais c'est pas fini. Mise en garde de l'OMS après l'apparition de deux nouveaux variants. Sont-ils plus contagieux, plus dangereux? Réponse dans ce journal.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Le journal Alban Le Prince, bonjour.
Bonjour à tous. J-10 avant le deuxième tour de la présidentielle, le marathon continue pour les deux finalistes, le duel aussi, notamment sur l'Europe. Attaqué frontalement par Emmanuel Macron sur le sujet depuis dimanche, Marine Le Pen a levé le voile hier sur ses projets. Victor Chabert, contrairement à il y a 5 ans, la candidate du Rassemblement National se défend de vouloir sortir de l'Union Européenne ou abandonner l'euro, mais elle plaide plutôt pour créer une Europe des nations.
Oui, Marine Le Pen l'a encore martelé hier lors de sa conférence de presse.
Nous sommes évidemment européens, bien sûr. Nous sommes français et nous sommes européens. Personne ne le conteste. Et personne ne conteste qu'il faille une organisation entre elles des nations. C'est la forme que prend cette organisation qui nous fait diverger.
Marine Le Pen promeut désormais l'Europe des nations. Si elle ne veut pas de changement institutionnel, la Commission est bel et bien dans son viseur. Et c'est un rapport de force qu'elle veut instaurer avec Bruxelles. Comme le prône notamment la Pologne, la candidate souhaite également faire primer le droit national sur le droit européen. Elle veut aussi retrouver des frontières, sans sortir de l'espace Schengen, mais en utilisant les textes de l'accord, comme le retour provisoire des contrôles aux frontières nationales, avant de renégocier un traité plus restrictif sur la libre circulation des étrangers. Selon un conseiller, la ligne européenne désormais défendue par le RN est gaulliste. Je cite « C'est une Europe de la coopération qui redevient une aide pour les États » plutôt qu'une contrainte.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1.
La bataille de la présidentielle se joue aussi sur le terrain des retraites.
On le sait, hein, Emmanuel Macron plaide pour un report de l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans. Marine Le Pen veut un maintien à 62 ans, car pour elle, l'âge de la retraite n'est pas une question de financement, c'est un choix politique. Ce que cherche à faire Emmanuel Macron, selon Marine Le Pen, c'est tout simplement baisser les pensions. Réponse du président candidat hier soir sur TF1.
C'était un programme à peu près à 7h de la soirée, dormaient les enfants. Mais ça n'est plus diffusé aujourd'hui.
Bonne nuit les petits.
Bonne nuit les petits. Merci de me corriger, monsieur Boulot. Bonne nuit les petits. Non, il ne faut pas prendre les Françaises et les Français pour des imbéciles. Quand vous voulez que les retraites se tiennent bien, il faut soit que les cotisations, compte tenu des équilibres démographiques, nous vivons de plus en plus vieux. C'est une chance. Mais si nous voulons financer ces progrès sociaux, eh bien, soit on doit accepter de payer davantage, nous, actifs, nos cotisations, soit vous baissez les pensions, ce que va faire Madame Le Pen sans lire, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne propose pas de cadeaux sur ce sujet. Elle va les fragiliser. Soit vous dites la vérité aux gens, il faudra travailler un peu plus.
Du côté des intentions de vote, l'écart semble se creuser entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Oui, 3 sondages publiés hier donnent le président gagnant au second tour avec 53 à 55% des voix contre 45 à 47% pour la candidate du Rassemblement National.
On part à New York après 24 heures de traque. Le tireur présumé du métro a été interpellé.
Oui, il a été arrêté à Manhattan grâce à un signalement suspecté d'être l'auteur des coups de feu qui ont fait 23 blessés dans le métro à Brooklyn. Il a été identifié. Nina Droff, on en sait beaucoup plus sur son profil ce matin.
Oui, le tireur présumé se nomme Frank James, c'est un Afro-Américain de 62 ans. L'homme est connu par les forces de l'ordre puisqu'il a été arrêté à 12 reprises, notamment pour vol, trouble à l'ordre public et plusieurs infractions sexuelles. Il était aussi actif sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube baptisée Prophet of Truth 88, le prophète de la vérité. Il y a posté plusieurs vidéos où on le voit s'exprimer de façon plus ou moins cohérente sur les questions raciales, sur la question de l'insécurité, notamment dans le métro. Il s'attaque également dans de longues tirades aux personnes homosexuelles, ainsi qu'au nouveau maire de New York, Eric Adams. Le procureur fédéral l'a d'ores et déjà annoncé que l'homme serait poursuivi pour attaque terroriste dans les transports en commun. Il risque la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable.
Merci Nina Droff. J'ajoute que le suspect Frank James doit être présenté aujourd'hui à la justice devant un tribunal de Brooklyn.
La guerre en Ukraine à 5h05 sur Europe 1. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ne veulent pas reprendre le terme de génocide prononcé par Joe Biden.
Justin Trudeau, le premier ministre canadien, décide de son côté de l'employer. À noter que le président américain a annoncé hier une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars de matériel militaire pour l'Ukraine, des véhicules blindés, de l'artillerie, mais aussi des hélicoptères.
Retour en France, où l'embellie semble se confirmer concernant l'épidémie de Covid.
Encore 146 000 cas détectés hier, mais en une semaine, les contaminations ont diminué de 9,6%.
Et pourtant, le Covid n'appartient pas encore au passé.
Loin de là, on connaît maintenant tous le variant Omicron qui possède lui aussi un variant, le BA2. Eh bien, l'OMS vient d'en détecter encore 2 autres, XE et XD, leur particularité, être des recombinants. Yasmina Katou, c'est un peu barbare hein, comme mot, qu'est-ce que ça veut dire ?
Des variants recombinants comprenaient un mélange de 2 variants. XD, c'est la combinaison de Delta et Omicron. XE, l'association de BA1 et BA2. Lorsque l'épidémie était à son plus haut niveau en décembre et en janvier, des personnes ont été co-infectées par 2 souches du Covid. C'est de cette manière que ces recombinants sont créés. Selon les premières analyses, le variant XD regroupe les symptômes de Delta comme la perte de goût et la résistance face au vaccin d'Omicron. Une 60aine de cas ont été identifiés en France. Justine Schaeffer de la cellule de surveillance des variants chez Santé publique France.
La bonne nouvelle, c'est que finalement, depuis qu'on suit le variant XD, depuis début janvier, sa proportion en France n'augmente pas. Ce qui est plutôt rassurant, ça veut dire que il va peut-être rester à des niveaux faibles, voire disparaître.
Ce qui n'est pas le cas de XE qui se répand plus rapidement au Royaume-Uni. 1200 cas ont été enregistrés. Ce variant qui combine BA1 et BA2 pourrait être 20% plus contagieux, disent les autorités britanniques. Pour l'instant, XE ne semble pas provoquer de formes plus graves.
Yasmina Katou.
On passe à la culture. Dans la famille Dutron, je demande le père et le fils.
Jacques et Thomas, Fanny, les deux Dutron se retrouvent pour la première fois pour une tournée commune. Ils interprètent leur titre sur scène pour le moment dans la capitale. Ils seront d'ailleurs ce soir au Casino de Paris, tout l'été sur la route des festivals avant de parcourir la France à la rentrée. Marie Jiquel s'est glissée dans leur loge pour Europe 1.
Deux blousons en cuir sur scène. Le père d'abord, cigare jamais très loin, l'air farceur, arbore des Santiago chaussons charentaises, et oui ça existe. Le fils, plus intimidé, porte la guitare et réfléchit aux derniers ajustements.
Thomas c'est un grand travailleur et avec moi ça fait une moyenne.
Cette tournée, Thomas Dutron en rêvait depuis longtemps, c'est lui qui a tout imaginé.
Je suis vraiment heureux quoi, sur un petit nuage d'être avec papa là, je suis tellement fier de lui et... Et je l'aime et partager tout ça, ça va être incroyable. Vraiment, je crois que je vais être vachement ému. J'ai peur d'être ému un peu.
Père et fils reprennent leur chanson, version plus rock, dans un décor chaleureux, ambiance studio d'enregistrement avec une photo de Johnny. L'autre influence, plus discrète, c'est bien sûr celle de Françoise Hardy.
Elle s'inquiète de tout, mais je crois qu'elle est très heureuse.
C'est pour elle que je suis là aussi. Non mais c'est vrai parce qu'elle m'a dit ça fait tellement plaisir à Thomas, j'ai jamais vu aussi heureux, etc., etc.
Cette collaboration devrait se poursuivre.
Il y a plein de projets en cours, après mon père est peut-être pas au courant donc faut rien dire.
Reste à convaincre Monsieur Jacques Dutron.
Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste.
Dutron et Dutron passeront par Montpellier, Nice, Dijon, Orléans ou encore Amiens. La billetterie est ouverte.
Merci beaucoup Alban Le Prince. C'était votre journal.
Il est 5h09 et ce sont les courses à présent de Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil et mon pari gagnant sera le 607, La Chenevière. Après s'être imposée pour ses débuts en steeplechase le 6 mars à Auteuil, elle n'a pu ensuite éviter lors de sa sortie suivante un adversaire qui malheureusement est tombé devant elle. Nullement marquée par cette mésaventure et ayant très bien retravaillé depuis, elle devrait pouvoir dès cet après-midi se réhabiliter et rembourser ainsi ses nombreux supporters. Notez bien, pour Auteuil, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 7, La Chenevière.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure.
Europe 1. Fanny Marceau et Omblin Roche.
Et nous sommes rejoints par Martin Lange pour le pressing. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Fanny, bonjour à tous.
Bonjour Martin. On commence avec les unes de vos journaux. Celle de Libération cible Marine Le Pen ce matin avec ce titre « Liberté, mon œil ». Son programme est une négation de l'état de droit, estime Libé, qui pointe notamment ses pressions sur les journalistes. Une babouchka, mouchoir sur le visage pour essuyer ses larmes en une du Parisien aujourd'hui en France. La guerre en Ukraine, 50 jours d'horreur aujourd'hui et la chute imminente de Mariupol. La ville portuaire assiégée est à bout de force, détruite à 90% selon le maire. Les autorités ukrainiennes y déplorent au moins 20 000 morts et assurent que des armes chimiques y ont été utilisées. Et puis cette photo, magnifique pour l'humanité, sublime bouquet, titre Le Quotidien, qui rend hommage ce matin à l'immense Michel Bouquet, monument du théâtre et du cinéma, décédé hier à 96 ans. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin ?
Eh bien, je parle d'une nouvelle tendance dans le tourisme, après nos assiettes, nos vêtements, nos produits de beauté, bref, notre quotidien. C'est autour du voyage, d'être vegan. Oui, c'est le Figaro qui parle ce matin de cette nouvelle corde à l'arc du tourisme durable. Alors on oublie les oreillers et les couettes en plumes. On oublie Martin, le linge de lit en soie.
Ça, mince. C'est pas mince. Comment je vais dormir
le fauteuil club en cuir et bien sûr les produits d'hygiène testés sur les animaux. Les règles sont extrêmement strictes et voilà un nouveau filon à exploiter pour les hôteliers. En 2018, l'établissement Saorsa a ouvert ses portes en Écosse au nord d'Édimbourg. Alors Saorsa, c'est un mot gaélique qui veut dire liberté. Liberté, Écosse, on a toujours une pensée pour Mel Gibson. Hein, ils sont oui. Brèves. Freedom ! Voilà, parenthèse refermée. L'hôtel Saorsa, donc, affiche clairement son positionnement avec un texte inscrit sur la page d'accueil de son site. Les meilleures expériences de la vie, dit ce texte, ne se font pas au détriment des animaux ou de l'environnement. D'autres hôteliers suivent le mouvement. Un établissement en Grèce a fait installer des matelas en fibre de noix de coco à Londres. Un hôtel, alors qui n'a pas encore sauté le pas du tout vegan, hein, propose une suite suite. Avec par exemple un sol en bambou et des coussins en cuir de feuilles d'ananas.
Ah
on
oui.
va pouvoir leur piquer leurs idées. Comme
du bambou importé de l'autre bout du monde, c'est très écolo effectivement.
Alors c'est pour ça, vraiment on peut ouvrir le débat et j'espère qu'on pourra le faire bientôt. En tout cas, pour cette chambre d'hôtel, comptez 130 euros la nuit. Elle est souvent occupée, figurez-vous. Le tourisme vegan concerne encore une niche de voyageurs, mais attention, il ne s'adresse pas co-vegan pur et dur. Les professionnels du secteur ont surtout envie de séduire des voyageurs curieux, ceux qui sont à la recherche d'une nouvelle expérience, qui ont envie de tester une nouvelle manière de parcourir le monde en réduisant leur empreinte carbone. Alors, parcourir le monde, empreinte carbone, bon, ça va pas forcément ensemble. On est bien d'accord, là encore, on peut discuter longuement. Peu d'hôtels ou de restaurants, en tout cas, se sont lancés dans le 100% véganisme. Ça se fait encore par touche, hein, à l'image donc, de cette chambre d'hôtel londonienne. Un menu ou juste un petit déj. Chez nous, il existe l'agence de voyage France Ecotour, qui a inaugurée il y a 3 ans des séjours véganes en France, en fait. Elle propose de faire découvrir des endroits peut-être moins célèbres que d'autres, comme un site de production d'algues dans le Finistère ou le potager du roi à Versailles. C'est un conservatoire formidable de légumes anciens. On n'y pense pas assez, mais il faut y aller. Le tourisme vegan a le vent dans le dos. Alors pour l'instant, c'est une légère brise. À voir si le souffle s'intensifie ces prochaines années. C'est à lire dans le Figaro.
Merci, Ombline. La parole est à Martin.
Oui, ça fait plusieurs jours qu'on vous parle de la situation sanitaire dramatique en Chine, et notamment à Shanghai où le Covid est de retour, mais dans des proportions à jamais atteintes jusqu'à présent, en tout cas officiellement. Mardi, ce n'est pas moins de 23 000 nouveaux cas qui ont été enregistrés. Et pour gérer la crise, les autorités maintiennent la stratégie anti-Covid et appliquent un confinement on ne peut plus strict, au point parfois de rendre fous les habitants. Voilà. Là, ce que vous entendez, ce sont eux qui hurlent leur désespoir à leur fenêtre.
À Shanghai.
Alors, qui dit confinement strict, dit interdiction d'aller travailler. Mais certaines grandes entreprises ont trouvé la parade. Elles font dormir leurs employés sur place. Le Wall Street Journal, repris par le Courrier International, a interrogé quelques-uns de ces campeurs de bureaux. Ce ne sont pas des travailleurs précaires, non. Ils officient dans des grandes banques, des fonds de pension, des assurances. Comme Changru Zheng, employé de la Banque industrielle et commerciale de Chine. Il ne peut pas télétravailler à cause d'un système de sécurité. Du coup, ça fait 15 jours qu'il a planté sa tente au milieu de l'open space. Mu Jiao, lui, est gestionnaire de risque. Depuis 3 semaines, il vit au milieu de ses collègues. Il trouve ça plutôt amusant, ça lui rappelle la fac. Mais d'autres souffrent de cette promiscuité, comme Yan Yuelin. Se retrouver à se brosser les dents à côté de son patron, c'est plutôt gênant.
Oui, c'est sûr. Ouais, c'est très bizarre. Ça doit être assez étrange.
D'autant que ses employés sont souvent prévenus au dernier moment pour venir s'installer au milieu de leur open space.
Tout à fait, ça peut arriver d'un jour sur l'autre. Un cas de Covid dans un building et tout le monde est enfermé. C'est ce qui est arrivé à Jennifer, obligée de s'isoler avec ses collègues après que les autorités aient soupçonné des cas de Covid 34 étages plus bas. Autant dire que les chances qu'il y ait eu un contact étaient
dans
plutôt
l'ascenseur.
Limitées. Ouais. Peut-être. Alors face à ces confinements surprises, beaucoup de Chinois s'organisent. C'est le cas de Stéphanie qui travaille dans la communication. Elle ne se déplace plus sur son kit de survie, un lingette de désinfection, savon, dentifrice, café et surtout des tongs et son chien.
Ah bah oui,
wow.
Selon elle, quitter son domicile revient à jouer à la roulette russe. Impossible de savoir quand vous allez vous retrouver coincé. Tente, tongs et sac de couchage, le confinement au travail des salariés de Shanghai, c'est savoureux, c'est à retrouver dans le Courrier International.
C'est complètement
hallucinant. Merci. Merci beaucoup, Martin.
Ça vous tente pas.
Une fois comme ça pour le fun, mais alors peut-être pas toute la vie quand
avec
même.
Avec le tong et le chien.
et le dentifrice.
On demandera à Julien d'amener Odette.
Merci beaucoup, Martin. Je vais conclure ce pressing avec une disparition inquiétante. Mais vous aurez beau placarder des affiches wanted, vous ne le trouverez pas. Le crapaud doré, espèce endémique du Costa Rica, n'a plus donné signe de vie depuis 1990. Ce qui fait de lui, en fait, le premier animal connu à avoir disparu, victime du réchauffement climatique, décimé en une seule année. Faut le voir, photo à l'appui dans un article du Huffington Post, ses grands yeux noirs comme deux billes posées sur son petit corps de batracien orangé. Avant de finir desséché, il vivait dans une forêt tropicale, la forêt nuageuse. On dirait le titre rêveur d'un bon Miyazaki. Mais en fait, avec le temps, les nuages de la forêt ont laissé place à de la poussière. 115 jours de sécheresse par an contre 25 dans les années 70. Un environnement qui a achevé notre petit crapaud chéri dont la santé était déjà menacée par une infection grave. La maladie a été la balle. Le changement climatique a appuyé sur la gâchette, explique l'écologue de la réserve biologique de Monteverde au Costa Rica.
Alors bien sûr, depuis 1990, d'autres animaux ont rejoint notre batracien dans les limbes des réchauffés du climat. C'est le cas par exemple du Mémolis rubicola, charmant rongeur aux aires de petites souris. Mmh. Il vivait sur une île au large de l'Australie, premier mammifère officiellement éteint en 2019 à cause des changements environnementaux. Montée des océans, tempêtes intenses, inondations, bah, nous non plus, notre habitat n'aurait pas survécu en réalité. Et ce n'est qu'un début, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que 12 000 espèces sont menacées, 6 000 risquent que l'extinction. Les conservateurs essaient de garder espoir. Ils ont d'ailleurs lancé des recherches l'an dernier pour tenter de retrouver notre joli crapaud doré dans une autre forêt, celle de son habitat historique, la forêt éternelle des enfants. Alors on salue évidemment la poésie des noms de forêt au Costa Rica. Et on note tout de même l'ironie de la chose, forêt éternelle des enfants, dans un monde en perpétuel déclin, à l'avenir incertain. Le crapaud doré, première espèce dont le réchauffement climatique a causé officiellement la disparition, c'est à lire sur huffingtonpost.fr.
On pense à lui. Et dans cette...
Je ne sais pas si c'était exactement son idée. Je suis sûre qu'il était plus poétique que ça.
Vous disiez quand même 115 jours de sécheresse par an contre 25 dans les années 70 dans cette forêt tropicale du Costa Rica. Oui, c'est quand même très...
Et c'est
très
inquiétant.
Très inquiétant, oui, exactement. Merci beaucoup Fanny. Et merci à vous Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
C'était le Pressing sur Europe 1.
Europe Matin. Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h18 sur Europe 1, les principaux titres de ce jeudi. C'est le journal permanent, Alban Le Prince.
Après les retraites, la campagne présidentielle se concentre maintenant sur l'Europe. Marine Le Pen dénonce la vision bornée des relations internationales d'Emmanuel Macron. Le président candidat lui a répondu sur TF1. Il veut enrichir son projet avec des mesures proposées par ses concurrents au premier tour et qui appellent à voter pour lui au second. Le programme aujourd'hui pour les candidats. Emmanuel Macron se rend au Havre sur les terres d'Edouard Philippe, une visite sur le thème de l'écologie. Marine Le Pen sera quant à elle en meeting à Avignon. Ils n'utiliseront pas le mot génocide pour parler de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, refusent. C'est très blessant, réagit Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Le terme génocide a été évoqué pour la première fois par Joe Biden, avant-hier repris par le premier ministre canadien hier. A noter que le président américain a débloqué une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine hier.
On passe à présent aux initiatives en France. À 5h19, la chronique qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger le pays ce matin, direction Bordeaux.
Pour prendre nos médicaments comme il faut. Bonjour Louis Lettinier.
Bonjour.
Vous êtes pharmacologue, cofondateur de Synapse Médecine, start-up bordelaise qui met le numérique au service de la santé. Vous avez créé la plateforme Galien, du nom d'un des pères de la médecine. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est une plateforme qu'on a créée avec le ministère de la Santé, qui est disponible sur santé.fr, et qui permet tout simplement à n'importe quel utilisateur de se connecter sur Internet et de poser ses questions sur les médicaments. L'avantage, c'est que c'est un accès libre, gratuit, il n'y a pas de compte, pas d'inscription. C'est un petit peu comme une barre de recherche, mais avec des réponses certifiées.
C'est un genre de chat, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est une sorte d'assistant virtuel, de petit robot conversationnel. On lui pose des questions simples, évidemment. On va pas avoir des discussions avec lui, mais on pose des petites phrases ou des mots-clés et il nous répond.
Alors, 8 Français sur 10 ont recours à l'automédication. On se dit qu'un petit paracétamol au moindre mal de tête, c'est pas grand-chose. Sauf que prendre un médicament, ce n'est jamais anodin, il faut le rappeler. C'est à eux, aux automédiqués, que s'adresse un outil comme Galien ?
Alors, pas forcément à l'automédication. C'est vrai que l'automédication, ça reste nécessaire, mais il faut l'encadrer. Donc, en effet, ça peut permettre à des gens qui voudraient prendre un médicament tout seul d'avoir une information. Mais au-delà de ça, il y a plein de situations où on a, par exemple, lorsqu'on est aidant, on a quelqu'un âgé dans sa famille qui prend plein de médicaments, même s'ils sont prescrits. Et parfois, ça vaut le coup de se poser sur l'ordonnance et de voir s'il n'y a pas des problèmes, parce que les patients, ils voient plusieurs médecins, ils changent de pharmacie, ils vont à l'hôpital, etc. Et en fait, à la fin, nous, ce qu'on se dit, c'est que peut-être que la meilleure personne pour avoir une vision globale sur ces traitements, c'est aussi le patient. Donc, c'est une façon d'investir les patients dans leur santé, de les accompagner. Après, on n'est pas là pour leur permettre de se traiter tout seul, on leur donne des informations, mais derrière, évidemment, le but, c'est qu'ils en parlent avec leur professionnel de santé.
On note ce chiffre effarant, le mauvais usage du médicament représente chaque année 130 000 hospitalisations évitables et plus de 30 000 décès quand même.
Donc ces chiffres viennent de rapports officiels qui ont été rapportés pour le gouvernement. C'est d'autant plus alarmant ou en tout cas intéressant à prendre en compte d'un point de vue santé publique que potentiellement sont des estimations plutôt basses. Si je devais dire, je pense que c'est plutôt la fourchette basse que la fourchette haute. Il faut bien rappeler que le problème, c'est pas les médicaments, hein, ce qui tue dans le monde, c'est le manque d'accès aux médicaments. Il y a plein de pays qui nous envient, donc il faut bien avoir conscience de la chance qu'on a en France d'avoir l'accès aux médicaments et que la plupart soient remboursés. Mais le problème, c'est que dans notre logique de consommation, on consomme trop et on consomme trop de médicaments. Et c'est là où on a besoin d'aide, c'est là où les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels peuvent aider à contrôler, un petit peu à mesurer cette surconsommation de médicaments. Plus on a de médicaments, plus c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Il peut y avoir des problèmes de compatibilité entre eux, il peut y avoir des effets indésirables qui s'ajoutent. Il y a la question de l'automédication. Par exemple, moi, ce que je dis toujours, une femme enceinte, elle ne doit pas faire d'automédication. Ça paraît tout bête, mais si on regarde un médicament comme l'ibuprofène, les anti-inflammatoires, l'Advil, par exemple, pour donner un nom de marque, c'est des médicaments qui sont très dangereux en cas de grossesse pour le fœtus. Et pourtant, il y a environ 4% des femmes enceintes qui en prennent, tout simplement parce qu'elles ne le savent pas.
Et pourtant, on a la notice quand même.
Alors oui, il y a la notice. Mais la notice, nous, c'est vrai qu'on avait fait un sondage avec Opinion Way. Il y a plus de 6 Français sur 10 qui disent qu'ils ont du mal à comprendre qu'il y a la notice. Il y a trop de choses. Ça peut être du langage médical. C'est écrit en tout petit. La notice, parfois, on la perd. Donc, la notice, c'est quand même un outil un peu archaïque pour donner de l'information. Et aujourd'hui, on peut faire quand même des choses plus ergonomiques et plus pertinentes.
Alors, Galien, c'est la version officielle de votre plateforme hébergée sur un site du gouvernement. Et puis, il y a aussi GoodMed, application grand public. Est-ce qu'elle fonctionne de la même manière?
Alors derrière, c'est un petit peu le même moteur d'intelligence artificielle qui nous permet de structurer de l'information non structurée. Donc je parlais des notices, on va récupérer l'information officielle, mais on va en faire quelque chose de structuré pour en faire des logiciels. Donc le moteur est le même. La différence principale, c'est que Galien, on va sur Internet et on pose des questions sans s'inscrire, ça va être des réponses généralistes. GoodMed, l'idée, c'est son application, sa santé. On rentre les informations qu'on veut rentrer, mais ça va nous permettre d'avoir des informations personnalisées. Par exemple, si vous êtes une femme enceinte, vous allez mettre votre date de début de grossesse et on va vous répondre des informations précises en fonction du trimestre. Vous allez noter tous vos médicaments chroniques. On va pouvoir regarder les interactions avec tous vos traitements, faire de l'analyse d'ordonnance. Donc GoodMed, c'est la version personnalisée de l'information sur les médicaments.
Combien de temps et de bras il faut pour élaborer des programmes comme ceci?
Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une grande équipe, on est une soixantaine. On a annoncé notre dernière levée de fonds de 25 millions d'euros il y a 2 mois maintenant, tout simplement parce qu'il faut à la fois des ingénieurs et des développeurs pour fabriquer les algorithmes et en faire des applications, mais il faut aussi toute une équipe médicale, puisque comme je vous le disais, le but c'est d'avoir une information certifiée. Donc chez Synapse, on a des médecins, des pharmaciens, et donc ça fait quand même du monde.
Vous avez, vous le disiez, levé 25 millions d'euros en début d'année. C'est quoi la prochaine étape maintenant? Une extension internationale?
Oui, c'est le problème dont on parle, il n'est pas que français, malheureusement, c'est un problème mondial. Donc on s'étend, on a vocation à proposer nos services dans différents pays, en Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Et surtout, là, la priorité pour cette année, c'est d'aller aux États-Unis. On a commencé à y aller, on a déjà un produit américain, on a des études cliniques en cours avec des universités américaines. Donc voilà, le but maintenant, c'est de s'étendre à l'international.
La belle histoire d'une start-up française, Synapse Médecine. Merci Louis Létinier, vous êtes l'un des fondateurs de cette entreprise. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe
1. Merci beaucoup.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
5h28, bon début de matinée sur Europe 1. Suivre le journal de Christophe Lamarre. Et puis à l'approche de Pâques, on va faire les gourmands, donc les chocolats.
Oui, avec la journaliste gastronomique Nathalie Elal, qui est passionnée de chocolat, qui signe un dictionnaire exquis du chocolat. Elle nous racontera cette passion dévorante qu'elle entretient depuis des années pour le cacao. Elle nous dira comment mieux consommer du chocolat aujourd'hui et qu'il faut faire confiance aux artisans chocolatiers près de chez vous. Vous l'entendrez à 5h45.
Et juste après la chasse aux œufs de Pâques, on passera à table avec Olivier Pouls.
Oui, pour déguster un savoureux agneau pascal.
Miam. Mais alors, pour être sûr de bien le déguster, il va falloir être sûr d'avoir une jolie météo.
Alors, l'agneau pascal, on va le déguster sur la terrasse, là, sous le parasol, dans le jardin. Ça va être bien, ça.
Ça va être magnifique.
Ça va être sympa. Après, on ira faire une petite balade au soleil pour le week-end de Pâques. Bon, en attendant le retour du grand soleil, ce matin, on est sur une journée de transition. Donc, il va falloir être prudent, surtout sur les routes du Grand Ouest, hein, des Pays de la Loire jusqu'au sud de la Normandie. On a beaucoup de brouillard et de nuages bas ce matin. On a aussi des grisailles dans le sud-ouest du côté de l'Occitanie. Ce matin, entre le Limousin et l'Alsace, là on a un ciel qui est bien chargé. En fait, c'est la fin de la perturbation d'hier, avec cet après-midi même un léger risque d'averse en région Rhône-Alpes. Partout ailleurs, eh bien ça s'améliore et c'est le retour de très belles éclaircies avant une fin de semaine vraiment presque estivale, parce qu'on aura des températures ce week-end dignes d'une fin mai dans un ciel bleu azur, donc c'est vraiment, vraiment très agréable. Il fait doux aujourd'hui, hein, 6 degrés à Rennes ce matin, 8 à Lille et Montpellier, 10 à Paris, 12 à Perpignan, puis cet après-midi on aura 15 à Cherbourg, 16 à Cabourg, 20 à Saint-Etienne, 21 à Paris, 26 à Nîmes.
C'est plutôt pas mal, merci beaucoup Anissa, bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30, c'est l'heure de votre journal.
Europe 1.
Et à la une de ce jeudi, le coup de barre à gauche d'Emmanuel Macron. Déplacement au Havre aujourd'hui pour le chef de l'État, ville où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour. Objectif, séduire l'électorat insoumis tenté par l'abstention. Le procès des attentats du 13 novembre, la dernière prise de parole du principal accusé, Salah Abdeslam, s'est expliqué sur son rôle et son refus de passer à l'action le soir de l'attaque. Et puis près de 40 000 Ukrainiens sont accueillis en France. Reportage à Strasbourg, où la solidarité, vous l'entendrez, s'organise pour les aider à trouver un travail et favoriser leur insertion.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Le journal Christophe Lamarre, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous. Il n'est plus dans le match, mais c'est lui qui détient la clé. Les deux finalistes de l'élection présidentielle sont bien décidés à séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, à commencer par le président sortant. Emmanuel Macron multiplie les appels du pied aux insoumis et à toute la gauche, écologiste compris. L'environnement sera d'ailleurs au cœur de son déplacement au Havre cet après-midi, ville dirigée par son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du premier tour. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, Jacques-Emmanuel Macron pense aux électeurs de la France insoumise, mais il n'oublie pas pour autant les écologistes. Hein.
Oui, Emmanuel Macron veut convaincre les électeurs de gauche qu'il est bien plus écolo que Marine Le Pen. Il fait le pari que ses propositions pour l'environnement peuvent pousser à la mobilisation une partie des mélenchonistes et l'équipe de campagne du candidat rôde déjà le discours. Emmanuel Macron, c'est 50 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique chaque année, insiste-t-on à son QG, où Marine Le Pen est qualifiée sans détour de climato-sceptique. Mais cela suffira-t-il à convaincre la frange d'électeurs qui vilipende régulièrement dans la rue l'inaction climatique du président sortant? Il faut être capable d'accuser réception du signal envoyé par le vote Mélenchon et Jadot avance un proche du candidat. Emmanuel Macron promet d'enrichir son programme en matière écologique. Après avoir lâché du lest sur la réforme des retraites, peut-être fera-t-il encore un pas de côté supplémentaire vers sa gauche.
Jacques Serret.
Alors ce pas de côté supplémentaire à gauche, sera-t-il suffisant pour le président candidat? Les jeunes électeurs de gauche demandent à voir.
Ah, ils vont négocier chèrement leur vote. C'est en tout cas le sentiment que donnent ces jeunes grenoblois qu'a rencontré Thibaut Hue. Là aussi, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête du premier tour, comme il y a 5 ans. Mais depuis, les temps ont changé. Reportage.
Dans une petite rue étroite de Grenoble, Ambroise se gratte la tête et hésite. En 2017, il avait voté Emmanuel Macron, mais 5 ans après, ce jeune socialiste est bien moins convaincu.
Si Macron arrive à nous montrer qu'il peut séduire l'électorat de gauche, il peut avoir un programme axé sur le social, alors je peux me poser la question pour lui offrir mon vote. À vrai dire, pour l'instant, je suis plutôt sur un vote blanc. Moi, je pense qu'on va pas m'avoir comme ça.
Thomas aussi est déçu. En l'état, le programme du candidat ne lui suffit pas.
Si Macron veut notre voix, ouais, c'est sûr qu'il faudra voir du coup ce qu'il veut faire, en tout cas au niveau de l'écologie, plus de choses. On a envie de laisser quelque chose de propre derrière nous.
Plus de social, plus d'écologie et un abandon du dossier retraite. Le président a rétro-pédalé sur l'âge de départ, 64 ans au lieu de 65, mais Louis n'est pas dupe.
Je vois bien qu'il veut baisser l'âge de la retraite pour essayer de plaire à l'électorat de gauche socialiste. C'est de la manipulation. Non, 64 ans, c'est trop. Je pense que la bonne retraite, ce serait 60 ans. C'est pas suffisant.
Bah, il en faut plus pour me convaincre.
Voilà un scrutin qui s'annonce très serré dans cette ville où la gauche, pourtant dominante, semble presque avoir perdu espoir. À Grenoble, Thibaut Hue, Europe 1.
Les électeurs de gauche, objet de toutes les attentions, Marine Le Pen tiendra un meeting ce soir à Avignon. Là aussi, la Cité des Papes a placé Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour.
Le procès des attentats du 13 novembre, sa parole était très attendue. Salah Abdeslam s'est enfin exprimé.
Là, il avait l'occasion de le faire une dernière fois. Salah Abdeslam a donc raconté cette soirée du 13 novembre et notamment son refus de passer à l'action au dernier moment. Il a parlé et il en a même dit beaucoup plus qu'espéré, Gladys Laffitte.
Ah oui, dans un rare moment de vérité, en tout cas de sa vérité selon ses mots, Salah Abdeslam se livre, à aucun moment il ne rompt le dialogue, et c'est même lui qui invite le président à l'interroger sur ce que devait être sa mission le 13 novembre. Calmement, il explique « Je dois déposer 3 membres au Stade de France, et ensuite je dois partir au café. » Un café dans le 18e arrondissement, où il doit se faire exploser. Mais il assure avoir renoncé, par humanité, je cite. « Il y avait des jeunes, des très jeunes aussi. J'ai vu ces gens danser, rigoler, je ne voulait pas les tuer. » Dans la salle peu remplie, le moment est suspendu car ce que dit Salah Abdeslam éclaircit certaines zones d'ombre, comme la raison de l'abandon de cette voiture dans le 18e arrondissement et la mention de ce lieu dans la revendication de l'État islamique alors que rien ne s'y est passé. Mais cette parole en apparence libérée de l'accusé laisse sceptiques certaines parties civiles. Leurs avocats auront l'occasion d'interroger Salah Abdeslam cet après-midi s'ils souhaitent toujours répondre aux questions.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Deux personnes sont en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen, jeune homme de confession juive renversé par un tramway alors qu'il tentait d'échapper à une agression. À ce stade des investigations, le procureur estime que le caractère discriminatoire n'est pas établi.
Il est 5h35 sur Europe 1. La guerre en Ukraine, Emmanuel Macron refuse de parler de génocide, propos qualifiés de blessants par le président Zelensky.
Et oui, le président ukrainien veut en parler directement d'ailleurs avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'a pas voulu reprendre le terme de génocide employé par le président américain Joe Biden à l'encontre de l'armée russe. Les États-Unis qui promettent 800 millions de dollars de supplémentaires pour fournir des armes lourdes à l'armée ukrainienne, toujours sous pression dans le Donbass.
La France qui continue d'apporter son aide aux réfugiés ukrainiens.
Ils sont environ 36 000 aujourd'hui sur le sol français, des femmes et des enfants pour la plupart qui tentent de commencer une nouvelle vie loin de chez eux, même si c'est temporaire. Trouver un emploi est l'une des solutions. À Strasbourg, l'entreprise de réinsertion Altaïr organise des ateliers de formation pour Ukrainiens. Reportage Mélina Fachin.
Et le but, c'est de venir coudre sur les lignes.
À Kharkiv, en Ukraine, Olga, 59 ans, était professeure d'architecture à l'université. Okay. Aujourd'hui réfugiée à Strasbourg, elle participe à un atelier pour devenir couturière.
Je n'ai jamais été couturière professionnelle, mais j'en faisais à la maison. C'est pas forcément ce travail que je cherchais, mais je veux gagner ma vie. Et puis, ça me permet d'apprendre le français. Je suis quelqu'un d'actif, j'ai besoin de travailler.
Olga et 6 autres Ukrainiennes vont signer un contrat de 35 heures, payer au SMIC, qui peut être adapté et associé à des cours de français. Luc de Gardel est le président d'Altaïr et de la Fédération des entreprises d'insertion de France.
On a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une opportunité, une chance pour tout le monde? Souvent, chez les personnes qui sont réfugiées ou qui viennent de migration, la motivation n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, pour traverser des pays et des pays, souvent en quittant des situations tragiques, ce sont des gens qui sont motivés et qui viennent pour vivre de ce qu'ils savent faire et de leur travail.
1500 entreprises comme celle-ci, partout en France, se disent prêtes à embaucher jusqu'à 10 000 réfugiés ukrainiens d'ici le mois de juin. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Fin de cavale aux États-Unis pour le principal suspect de l'attaque du métro de New York. Le tireur présumé a été interpellé à Manhattan. Il s'agit d'un Afro-Américain de 62 ans dont les motivations restent encore floues, même s'il a été inculpé d'actes terroristes. En Afrique du Sud, plus de 300 morts dans la région de Durban après les pires inondations jamais enregistrées par le pays. Plusieurs milliers de maisons ont été détruites. Le football avec les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Liverpool et Manchester City qualifiés aux dépens de Benfica et de l'Atlético Madrid. La suite du programme européen aujourd'hui avec les quarts de finale retour de la Ligue Europa et de l'Europa League Conférence. Lyon-West Ham ce soir à 21h. Marseille se déplace au PAOK Salonique à la même heure.
Merci Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Fanny. C'est sur l'hippodrome d'Auteuil que se disputera ce Quintet, une course de haies handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 14 ayant déclaré forfait. Deuxième cet hiver à Pau, puis cinquième à Auteuil. D'épreuve similaire, Okusai Valis, le numéro 3, me semble être un bon favori. Préparé avec minutie pour ce quintet depuis plusieurs semaines par son entraîneur Laurent Vielle, sa place est à coup sûr à l'arrivée. On lui opposera les numéros 2 Anouma Freedom, à ne surtout pas condamner sur sa dernière chute à Auteuil. Lui qui auparavant avait souvent bien réussi dans cette catégorie des quintets, 1. Colonel Daumont, pour lequel son entraîneur Maxime Cézandry n'effectue certainement pas le déplacement depuis Lyon jusqu'à Auteuil, non sans avoir quelques certitudes. Et 6. Razango, le doyen de ce quintet, qui du haut de ses 11 ans est encore très performant sous réserve, qu'il puisse évoluer sur une piste très souple, ce qui devrait être le cas cet après-midi à Auteuil. Enfin les numéros 9. Papille d'or, 5. Fou du Brésil, 11. Clodon Sian et 8. Gagneur compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 2, 1, 6, 9, 5, 11 et 8.
Alors, vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, puisque les pronostics de Thierry Léger sont évidemment dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, ce sont les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et aujourd'hui, on parle de l'acteur Michel Bouquet qui est mort hier à 96 ans. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Fanny, bonjour Omblin.
On revient avec vous et les archives d'Europe 1, évidemment, sur Michel Bouquet. C'est le dernier grand homme de théâtre qui s'en va.
Oui, c'est un acteur perfectionniste qui relit ses textes des dizaines de fois, qui analyse chaque geste au théâtre, chaque sentiment, qui peut entrer dans une colère noire s'il n'arrive pas à reproduire un geste sur scène. C'est un acteur cérébral. En 2007, Michel Bouquet parle de son propre jeu sur Europe 1 au micro de Frédéric Taddeï.
Je me rends pas compte du tout comment je joue.
Mais vous êtes dans la retenue, vous êtes pas...
Ah ben, j'ai l'impression tout le contraire que...
Que vous jouez avec vos tripes ?
C'est les tripes de la cervelle, mais ça arrive quand même aux vraies tripes.
Mais ça part de la cervelle.
Oui.
Pas du ressenti, vous n'êtes pas acteur studio.
Non, je ne suis pas acteur studio, c'est le texte. C'est le texte.
Je n'aime pas les loisirs parce que cela distrait de l'existence, disait Michel Bouquet. Il ne se soucie pas non plus de son apparence, souvent habillé en cravate et en costume sombre. Il explique pourquoi en 1983, au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
Je suis né en 1925, j'avais 19 ans. J'étais pendant l'occupation, on mettait des cravates, des machins pour avoir l'air très propre, très net. Et puis j'en suis resté là parce que j'ai pas pensé à changer de vêtements.
La seule fois de sa vie qu'il a porté un jean, disait-il avec humour, c'était dans un film et il s'était trouvé ridicule.
Il est acteur de cinéma aussi, mais son socle, alors, c'est véritablement le théâtre.
Oui, Michel Bouquet, c'est 80 ans de théâtre. Il a créé le Festival d'Avignon avec Jean Villard. Il a été un ami de l'écrivain Albert Camus. Il est entré au conservatoire en même temps que Gérard Philippe, dont il parlait en 2007.
Gérard venait de jouer Sodome et Gomorre de Giraudoux et je l'avais vu, il était très très impressionnant. Comme charisme, comme présence. C'est un homme qui crée facilement le mirage.
Tout au long de sa vie, Michel Bouquet joue 800 fois Le Roi se meurt de Ionesco. Rejouer plusieurs fois la même pièce permet d'atteindre la perfection, confie-t-il à Marc-Olivier Fogiel en 2010.
J'aime retrouver les pièces importantes et les rejouer. Je pense que c'est comme ça que faisaient les acteurs du siècle passé, en les reprenant constamment. Ils avançaient très vite dans la connaissance de leur métier par ce procédé.
Quand on l'interrogeait sur sa vieillesse, Michel Bouquet disait « Je n'ai pas senti le temps passer, je suis exactement comme au premier jour, j'ai autant peur et j'ai autant envie. »
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour ouf. Dans un instant, en attendant le week-end de Pâques, on va parler de chocolat sur Europe 1. À tout de suite.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h42 sur Europe 1. Bon réveil à tous. C'est bientôt le week-end de Pâques, synonyme pour beaucoup d'entre nous de chasse aux œufs dans le jardin. Après Noël, c'est la période de l'année où l'on consomme le plus de chocolat. Alors pour parler de l'or noir, avant de le déguster, nous sommes avec Nathalie Hélal, auteure du dictionnaire exquis du chocolat paru aux éditions Albin Michel.
Bonjour Nathalie Hélal.
Bonjour Ambline.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste gastronomique spécialiste de l'histoire de la cuisine et de l'alimentation et vous nourrissez une passion comme beaucoup d'entre nous pour le chocolat. Alors petit rappel historique pour commencer, pourquoi mange-t-on du chocolat à Pâques ?
On mange du chocolat à Pâques certainement depuis le 19e siècle en réalité, ça s'est démocratisé on va dire à cette époque-là, mais au début, vous le savez, on mangeait surtout les œufs qu'on avait conservés pendant le carême, on s'en resservait évidemment à Pâques et toute la symbolique vient de là. Après qu'on ait transformé ces œufs progressivement en injectant à l'intérieur du chocolat, à l'intérieur de la coquille, et ensuite en enlevant la coquille, et puis ensuite en créant des formes diverses et variées qu'on a pu colorer, qu'on a pu disséminer dans les jardins, ça c'est venu beaucoup plus tard.
Fanny le disait, vous êtes l'auteur du dictionnaire exquis du chocolat. Qu'est-ce qui vous plaît tant ? Qu'est-ce qui vous fascine autant dans le cacao ?
Alors, ce qui me fascine vraiment dans ce produit, c'est qu'on l'a en Europe depuis exactement 503 ans. Donc, puisqu'il a été véritablement découvert par les conquistadors en 1519, donc dans le Nouveau Monde, et qu'il est venu jusqu'à nous. Donc, c'est à la fois un produit qui a fait le lien qui a joué la passerelle entre l'ancien monde et le nouveau monde, déjà d'une part, et puis qui est parti donc de ce nouveau monde pour aller dans l'ancien monde. Il est parti littéralement à la conquête de l'ancien monde. Il a été adopté en Europe et au début, c'était pas du tout le chocolat tel qu'on le consomme aujourd'hui, bien évidemment. Il avait des formes différentes, son goût était évidemment différent, mais c'est incroyable, je trouve, de penser qu'un produit a pu traverser autant de siècles et être toujours aussi fascinant et en plus être maintenant très populaire.
Alors le chocolat populaire, si nous sommes nombreux à dévorer avec plaisir, avec voracité hein, parfois, tablette, et c'est plus de saison des œufs en chocolat, on ne consomme pas forcément des produits de grande qualité aujourd'hui. Un bon chocolat, Nathalie Elal, est-il forcément un chocolat cher?
Alors qu'appelez-vous un chocolat cher? C'est toute la question.
À qui s'adresse-t-on effectivement
C'est vrai, parce que aujourd'hui, y compris dans les linéaires des supermarchés, on peut trouver du chocolat en tablette qui vraiment tient la route. Je ne peux pas citer de marque, mais j'en connais au moins une que je trouve excellente, qui fait un chocolat bio vraiment tout à fait remarquable, à des prix oscillant, suivant la région où vous vous trouvez en France, entre environ 1,95€ et 2,25€, avec des fèves. Bon, vraiment un chocolat très intéressant. Et je vous garantis qu'en dégustation à l'aveugle, avec parfois d'autres tablettes de certains grands chocolatiers, on ne voit pas toujours la différence. Donc finalement, ma réponse, ce serait qu'un bon chocolat n'est pas forcément un chocolat cher.
Et si le chocolat est un produit d'exception, si on veut favoriser sa qualité plutôt que la quantité, donc l'idée, c'est de consommer moins, mais mieux.
Je suis un petit peu, je m'inscris en faux par rapport à cette espèce de bien-pensance alimentaire qui consiste à dire qu'il faudrait arrêter avec le chocolat industriel, que c'est pas bien, qu'il faudrait arrêter d'en consommer aussi souvent et consommer seulement occasionnellement, parce que je trouve dommage de mettre un clivage à ce stade pour un produit qui en plus souvent est très aimé des enfants et que évidemment tout le monde ne peut pas s'offrir des tablettes d'exception. C'est très compliqué de s'offrir des tablettes d'exception parce qu'on passe quand même à des prix en moyenne entre 7 et 12 euros. Et donc mettre un clivage dans l'alimentation en disant bon chocolat, mauvais chocolat et dire que forcément le chocolat industriel est mauvais, je trouve ça un peu dangereux et inquiétant.
Alors justement, le chocolat industriel, on y vient naturellement, on va célébrer Pâques et cette orgie de chocolat dans 3 jours. Le groupe Ferrero est au cœur d'un scandale avec des chocolats Kinder contaminés à la salmonelle et distribués dans 9 pays européens. Peut-être une nouvelle preuve qu'il existe encore un monde entre le chocolat d'exception et celui de grande consommation qu'il ne faut pas forcément décrire, on est bien d'accord. Mais quel message tenir alors face à cette actualité? Qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce qu'on doit arrêter d'acheter ces produits?
Je dirais que dans la mesure du possible, ce serait peut-être d'essayer de surveiller les étiquettes, parce que dans le chocolat industriel, ce qui peut poser problème, c'est pas tant le cacao qui fait partie de ces chocolats industriels, c'est aussi et surtout ce qui sont les ingrédients ajoutés comme les graisses et le sucre, puisque le sucre étant et le sucre et le gras étant des exhausteurs de goût bien connus, ce sont eux qui en fait envoient surtout les mauvais messages. Après, sur le danger sanitaire, il est à souhaiter que ça ne se reproduise plus jamais. Je pense que c'est quand même très accidentel, heureusement d'ailleurs, mais ça peut toujours arriver, personne n'est à l'abri. Mais il faut regarder les étiquettes avant toute chose et se dire que ok, pour le chocolat industriel, se dire que voilà, ça reste assez occasionnel et on va pas non plus acheter ça toutes les semaines. On va pas forcément manger ça tous les jours.
Et pour terminer, en deux mots, Nathalie Elal, si on le fabriquait nous-mêmes, cet œuf en chocolat pour Pâques, comment doit-on procéder? Est-ce que vous avez un conseil pour nous aider?
Moi, je vous dis non. Alors, je vous dis non pour une raison très simple. C'est que je pense qu'on a tous autour de nous des artisans dans nos villes, petites villes, grandes villes, moyennes villes, des artisans formidables qui sont des chocolatiers ou des pâtissiers chocolatiers confiseurs, que ces gens-là ont un vrai savoir-faire, qu'on ne s'improvise pas chocolatier du jour au lendemain, qu'il faut faire confiance à ces artisans, qu'il faut favoriser la production artisanale. Il faut en parler, c'est le bouche à oreille qui fonctionne généralement. Et je pense que, encore une fois, c'est un vrai métier. On n'est pas équipé pour, il faut un vrai équipement qui coûte souvent cher. On n'a pas souvent la place aussi pour réaliser ça. Donc non, faisons confiance à nos artisans et dégustons des bons produits faits au moins avec amour par des gens responsables.
C'est entendu. Merci beaucoup Nathalie Elal d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes journaliste gastronomique, spécialiste de l'histoire de la cuisine et de la l'alimentation. Et votre ouvrage à dévorer, Dictionnaire exquis du chocolat, est paru aux éditions Albin Michel. Merci encore, merci. Bonne journée.
Merci à vous, Ombline. Bonne journée.
Ça, c'est
Europe Matin. Fanny Marceau et Ombline Roche.
Savoureuse.
Dévorante. Il est 5h49, vous êtes bien sur Europe 1 et bien informé, le journal permanent Alban Le Prince.
La guerre en Ukraine, le croiseur Moskva, un navire de la marine russe gravement endommagé en mer. Moscou rapporte une explosion de munitions causée par un incendie. Kiev indique de son côté que le croiseur a pris feu après avoir été touché par des missiles. Emmanuel Macron et Olaf Scholz refusent par ailleurs de parler de génocide. Le président français doute de l'utilité d'une escalade de mots pour mettre fin au conflit. C'est très blessant, répond Volodymyr Zelensky, le chef d'État ukrainien. Et puis la présidentielle, le match Macron-Le Pen se poursuit et l'écart se creuse dans les sondages. 3 ont été publiés hier. Ils donnent le président candidat gagnant au second tour avec 53 à 55% des intentions de vote, 45 à 47% pour la candidate du Rassemblement national.
Bon début de matinée sur Europe 1. Après le chocolat, on continue à se régaler grâce à Olivier Pouls.
Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
En prévision du week-end de Pâques, vous avez décidé de nous parler, bien sûr, de l'agneau pascal, tradition bien ancrée.
Bah oui, vous savez, c'est un rituel que l'on retrouve chez nous depuis plusieurs siècles déjà. L'agneau pascal est le symbole pour les catholiques de Jésus et de son sacrifice pour les hommes. Au Moyen-Âge, déjà, on avait l'habitude de préparer de l'agneau le jour de Pâques. Alexandre Dumas détaille d'ailleurs dans son dictionnaire de la gastronomie que jusqu'à l'époque de Louis XV, on préparait un agneau entier, figurez-vous, rôti au feu, conformément à ce que préconise la Bible. Puis l'agneau est également présent dans les fêtes de la Pâque juive, des traditions qui, comme vous l'avez dit, demeurent aujourd'hui, puisque durant cette période de Pâques, les ventes d'agneaux sont multipliées par 2.
Nombreux sont donc les Français qui auront de l'agneau à table pour Pâques. Comment faire le bon choix ?
Alors désormais, plus d'agneaux entiers en général, vous l'aurez compris, c'est quand même un peu volumineux, il faut être très nombreux. Alors des morceaux d'agneau que l'on peut griller, braiser ou confire. Première étape, le choix de la viande. Alors française évidemment, il existe en fait 3 catégories d'agneaux sur l'étal des bouchers. Alors l'agneau de lait, dit également laiton, ça signifie que l'animal est né et a été élevé sur une exploitation et surtout, il n'a été nourri qu'au lait maternel et était abattu entre 40 et 60 jours. Alors sa chair est toute blanche, moelleuse et tendre, c'est un peu la Rolls de l'agneau, c'est le plus cher. Vous avez ensuite l'agneau de bergerie ou agneau dit 100 jours. Lui était nourri au lait de sa mère, puis au lait de vache. Et enfin l'agneau d'herbage a, comme son nom l'indique, commencé à brouter de l'herbe. Il est abattu entre 6 et 12 mois. Il a plus de goût, c'est plus fort, c'est plus puissant. Il a surtout une viande qui est plus rouge. Alors vous pouvez opter pour une appellation d'origine protégée, comme l'agneau de Pauillac, de l'Aveyron, du Limousin ou de Sisteron, ou alors un label rouge qui garantit un cahier des charges sérieux.
Quelles sont les pièces les plus prisées de l'agneau ?
Eh bien, lorsqu'on est nombreux en famille, le gigot, exemple, évidemment très prisé. L'épaule est une bonne alternative si vous êtes entre 4 et 6 personnes. Les petites côtelettes, moi j'aime bien tout simplement à griller, elles sont délicieuses et on les déguste du bout des doigts, légèrement rosées à cœur. Et puis il y a 2 morceaux que je vous invite à découvrir. Le collier, qui est une partie du cou, un morceau assez gras, peu coûteux, très savoureux, à cuire lentement et longuement en ragoût. Et puis la selle située au-dessus du gigot, qui elle est un morceau à rôtir.
Alors vous nous avez donné un petit aperçu, mais une idée pour ce week-end si on veut préparer de l'agneau.
Mais il y a une association que j'adore, c'est l'agneau et le cumin. Alors une selle ou une épaule d'agneau frottée généreusement au cumin et au sel, colorée simplement dans une cocotte pour faire une petite croûte. Et puis on la laisse cuire au four tranquillement 40 minutes en l'arrosant régulièrement. On peut aussi, si le temps le permet, et si on a évidemment un barbecue sous la main, la griller.
Et concernant l'agneau du Mont-Saint-Michel, Olivier ?
Eh bien, c'est pas la saison, figurez-vous, parce que ce qu'on appelle les agneaux des présalés sont des agneaux qui mangent dans cette fameuse baie du Mont-Saint-Michel des plantes qui ont poussé au printemps et qui sont gorgées d'iode, ce qui leur donne leur goût caractéristique. Et en fait, ce sont des agneaux qui vont arriver beaucoup plus tardivement dans la saison.
Donc pas pour Pâques.
Mais non, pas pour Pâques.
Merci Olivier.
Europe Matin, Fanny Marceau et Ombline Roche.
Il est 5h57, dans un instant la météo, le journal et Fanny de l'écologie.
Oui, Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace France, nous parlera à 6h10 des programmes des 2 candidats à l'élection présidentielle. Lequel est le moins pire compte tenu des prévisions des experts ? Réponse tout à l'heure et juste après votre partition, Ombline.
Ils assuraient l'animation musicale lors des rassemblements des Hells Angels au début des années 70. We'll be right back. partition des Doobie Brothers dans 20 minutes.
On a déjà la playlist là pour la bonne journée qu'on va passer. Ce sera un petit peu mieux aujourd'hui. Anissa, il y a encore un peu de nuages.
Oui,
vrai,
il y a encore
matin.
Un petit peu de nuages, mais ça, c'est le genre de musique qu'on peut écouter ce week-end, hein, sous le soleil.
Ah
c'est
bah vraiment
le genre de musique qui fait du bien autour du barbecue, exactement. Mais il y a encore un peu de nuages, vous le disiez, Fanny. C'est cet après-midi que les éclaircies seront vraiment les plus nombreuses. En attendant, il va falloir être encore un peu patient ce matin entre l'Occitanie et le Grand Est, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne. On a un ciel encore un peu couvert. Ce sont les restes de la perturbation d'hier. Hier, c'était vraiment une journée tristoune d'automne. Là, on va retrouver quelques couleurs quand même. Cet après-midi, sur le sud de l'Auvergne et sur les Alpes du Nord, quelques coups de tonnerre sont possibles, rien de très inquiétant. Et puis ce matin, soyez très prudents à l'ouest du pays, hein, sur la Normandie jusqu'au Pays Basque, on a pas mal de brouillard. Après la dissipation de ces nuages bas, les éclaircies dominent. Ah. Et vraiment, ça sera mieux demain et ça sera encore mieux ce week-end jusqu'à lundi. Alors les températures, elles sont douces. On a 4 degrés ce matin à Aurillac, 8 à Brest et Montpellier, 9 à Lyon, 10 à Paris, 12 à Nice. Cet après-midi, 15 au Havre, 18 à Lille, 20 à Nancy et Saint-Cerf. Ce sont des températures au-dessus des moyennes de saison. 21 degrés à Paris, 23 à Bordeaux, Marseille et Lyon et 26 la maximale pour Nîmes.
Les bonnes nouvelles, c'est sur Europe 1. Merci Anissa, vous êtes sur Europe 1. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 14 avril. Et il est 6h. C'est un geste de solidarité qui a un coût depuis le début de la guerre. Plusieurs centaines de Français hébergent des réfugiés, des familles d'accueil qui demandent aujourd'hui une aide financière alors que le conflit s'éternise. Reportage dans un instant. Il raconte pour la première fois sa soirée du 13 novembre. Ultime prise de parole de Salah Abdeslam au procès des attentats. Hier, il a expliqué pourquoi il n'avait finalement pas déclenché sa ceinture d'explosifs. Vous entendrez la réaction des associations de victimes. Et puis c'est peut-être sa truffe humide qui vous a réveillé ce matin. Les chiens et les Français, une histoire d'amour qui dure, c'est ce que dit une nouvelle étude, malgré les chiffres records d'abandon dans notre pays.
Europe Matin, Fanny Marceau et Omblin Roche.
Roman Oquet pour le journal. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. 50 jours après le début de l'offensive, qui peut dire quand la guerre en Ukraine s'achèvera? Plus de 40 000 réfugiés sont arrivés en France, plusieurs centaines hébergés au sein d'une famille d'accueil. Un geste de solidarité qui pèse aussi dans le budget de ces Français. Alors il existe bien une aide, l'allocation pour demandeurs d'asile, versée un mois après l'obtention du statut de protection temporaire. À Lille, notre correspondant Lionel Gougelot a rencontré l'une de ces familles d'accueil.
Président d'association franco-ukrainienne, Pierre Dumoulin accueille depuis quelques semaines une jeune maman qui a fui la guerre avec ses deux enfants. Et pour ce retraité et son épouse, ce geste de solidarité a forcément un coût.
Je pense que la facture d'électricité, elle devrait être multipliée par deux ou par trois. Il y a les frais de gaz pour le chauffage et puis il y a des frais de nourriture qui sont ressentis. On le voit bien qu'on dépense par semaine plus que quand on est tous les deux.
Alors pour l'heure, le couple peut supporter cette charge, mais ça n'est pas le cas de toutes les familles.
L'élan de solidarité a été très spontané, mais il y a des familles qui ont demandé à ce qu'on trouve d'autres hébergements parce que financièrement, ils ne pouvaient pas suivre.
À cela s'ajoutent les délais pour percevoir l'allocation pour demandeurs d'asile, à peine 7 euros par jour et par personne. Du coup, certaines familles s'inquiètent pour l'avenir, selon Jean-Luc Lambert, président d'association.
On a le sentiment d'être un peu piégé, quoi, parce que on ne voit pas arriver de propositions d'accueil autonomes, et donc les familles se disent, oui, ok, on a accueilli, mais au fur et à mesure que le temps passe, est-ce que ça va durer plusieurs mois, un an, deux ans? Auquel cas, là, je peux pas tenir.
D'où la nécessité d'un dispositif d'aide financière plus important pour ne pas briser l'élan de solidarité envers les réfugiés ukrainiens. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Une guerre sans issue à ce stade. Les États-Unis ont validé hier une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars.
Joe Biden accuse le président russe de génocide, un terme qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu reprendre à son compte, fut jugé très blessant par Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron aussi est candidat à l'élection présidentielle. Il sera aujourd'hui au Havre pour un déplacement autour de l'écologie. Sa rivale Marine Le Pen organise elle un meeting ce soir à Avignon.
Il est 6h02 sur Europe 1. Il a renoncé à déclencher sa ceinture explosive par humanité. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué hier, Salah Abdeslam, au procès des attentats du 13 novembre.
Et après 7 mois d'audience, il était à la barre hier pour la dernière fois. Il a détaillé sa mission initiale le soir des attaques, un sujet qu'il avait toujours éludé pendant l'enquête. Le principal accusé devait se faire exploser dans un café du 18e arrondissement de Paris, avant de faire machine arrière confrontée. C'est ce qu'il explique à la jeunesse de ses victimes. Des mensonges pour Arthur Desnouveaux. Il préside l'association Life for Paris.
Grosso modo, il nous dit, deux jours avant, je ne savais rien, j'ai mis deux jours à réfléchir et à renoncer par humanité. C'est une belle fable. Je pense que les questions des parties civiles, les questions du parquet vont mettre à mal ce récit qui avait l'air très bien appris. Il nous explique quand même qu'il était le seul membre du commando à avoir été choisi à la dernière minute et c'est celui qu'on aurait envoyé tout seul sur un lieu faire une mission. Ça colle pas du tout avec tout le reste de ce qu'on sait. Et en fait, il n'y a jamais rien de précis autre que ce qu'il a déjà entendu à l'audience et dont il sait que c'est dans le dossier.
Arthur, des nouveaux survivants du Bataclan et président de l'association de victimes Life for Paris.
Il sera présenté aujourd'hui devant la justice américaine. L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York sera poursuivi pour acte terroriste. Cet afro-américain de 62 ans a blessé 23 personnes, dont 10 par balle. 6h et presque 4 minutes sur Europe 1. Et rien que depuis le début de ce journal, deux femmes sont mortes dans le monde à cause de cette maladie. Le cancer du col de l'utérus, un nouveau protocole de l'Organisation mondiale de la santé, pourrait permettre de mieux protéger les jeunes filles.
Une dose de vaccin au lieu de deux, c'est ce que recommande l'OMS pour les femmes de moins de 21 ans. Yasmine Akatou, l'objectif, c'est d'augmenter la couverture vaccinale contre ce cancer.
Oui, puisqu'aujourd'hui dans le monde, seulement 13% des jeunes filles sont vaccinées contre le papillomavirus. À titre de comparaison, en Grande-Bretagne, 8 femmes sur 10 se sont vaccinées. Dans les pays en développement, où l'accès aux soins est très compliqué, la vaccination est en revanche quasi inexistante. Le vaccin contre le papillomavirus nécessitant 2 doses à 6 mois d'écart pour les moins de 14 ans et 3 injections pour les plus de 15 ans. Une dose de vaccin permettrait donc d'éviter les difficultés d'organisation tout en étant aussi efficace contre l'infection, dit l'OMS. Grâce à ce nouveau protocole, l'Organisation mondiale de la santé espère que 90% des filles de moins de 15 ans seront vaccinées d'ici à 2030. Une vaccination massive qui permettra de réduire le nombre de morts. En 2020, 340 000 décès ont été recensés dans le monde, dont 90% dans les pays à faible revenu.
Yasmine Akatou.
J'avais pas vu Mirza. Oh là 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 là. Où est donc passé ce chien ?
Alors le vôtre ne s'appelle peut-être pas Mirza, mais je suis certaine que vous l'aimez tout autant. On ne se moque pas hein, sur les noms de chiens, ça c'est très
pas,
personnel.
C'est
en tout cas, on va parler justement chiens ce matin avec un nouveau baromètre de l'Institut CSA.
Des toutous considérés comme un membre de la famille par 85% des Français. Vous êtes aussi 4 sur 10 à vouloir le ramener au travail. Une histoire d'amour qui dure, Louise Salé.
En 50 ans, le chien est passé de la niche au canapé, voire possède sa propre chambre. Christophe Blanchard, professeur de sociologie à la Sorbonne, n'est pas surpris des résultats.
On projette sur cet animal des qualités humaines. On va dire du chien qu'il est fidèle, qu'il est loyal, qu'il ne juge pas, lui, contrairement aux humains. On va appeler aujourd'hui son chien Cathy, Michel. C'était totalement impensable il y a une cinquantaine d'années.
Environ 3/4 des Français veulent des chiens accueillis dans tous les campings, les hôpitaux, les EHPAD et même au bureau pour près de la moitié de la population.
En fait, il y a un énorme décalage entre ce que les Français semblent indiquer dans ce sondage et le rythme de la société et de ses structurations qui ne permettent pas finalement l'accueil simple de ces animaux de compagnie. Tout ça est problématique parce que les refuges débordent justement de chiens abandonnés par une incapacité des propriétaires à pouvoir les gérer dans leur vie quotidienne.
100 000 animaux abandonnés chaque année en France, un record en Europe qui préoccupe les Français. Le bien-être animal n'aura jamais autant été abordé dans une campagne présidentielle.
Louise Salé, des chiens qui mènent depuis 21 ans, je ne sais pas si vous le saviez Fanny, ou même leur récompense au Festival de Cannes.
Ah oui, non, je ne savais
ouais,
pas.
Ça s'appelle le Palm Dog, qu'a reçu par exemple le Jack Russell de The Artist. Alors qui sera le gagnant, voilà, qu'on entend du coup derrière nous, voilà, ravi. Alors qui sera le gagnant cette année? Bah, ça tombe bien puisque le 75e Festival dévoile aujourd'hui sa sélection officielle pour les animaux et les humains surtout quand même.
Merci beaucoup. Pour Romain Noquet pour ce journal de 6h fantastique.
Il est 6h07 et on passe au sport fantastique.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Et Martin, on connaît les affiches de demi-finale de la Ligue des Champions.
Oui, Manchester City et Liverpool ont rejoint Villarreal et Real Madrid. Les Citizens ont conservé leur but d'avance contre l'Atlético Madrid. Match nul 0-0 hier dans un match beaucoup plus spectaculaire dernière. Les Reds, eux non plus ne sont pas parvenus à se défaire de Benfica. 3-0, mais ils profitent de leur victoire au match aller pour se qualifier. On assistera donc dans 15 jours à deux chocs anglo-espagnols lors des demi-finales. Manchester City-Real et Liverpool-Villarreal.
Aujourd'hui, c'est au tour des clubs français.
Oui, avec les quarts de finale retour de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Lyon qui a ramené un joli match nul de Londres la semaine dernière reçoit West Ham. Des Lyonnais qui comptent sur la ferveur de leur public pour compenser les nombreuses absences. Leur entraîneur Peter Bosz.
L'atmosphère à Londres, c'est extraordinaire, mais dans notre stade, les supporters sont pour nous et j'espère notre supporter faire la différence pour nous.
Peter Bosz au micro de Maxime Cheuch. Une ambiance de feu, c'est aussi ce à quoi doivent s'attendre les Marseillais qui se déplacent au PAOK Salonique avec un but d'avance. Mais après les débordements du match aller, les supporters grecs ont promis l'enfer aux Olympias. Sur le prêt, Steve Mandanda devrait enchaîner une deuxième titularisation de rang. À 37 ans, le gardien prend son rôle avec philosophie.
Le plus important reste pour moi l'équipe, le collectif. À chacun nos cas perso, mais le plus important c'est l'objectif du club et l'objectif de l'équipe.
On passe au tennis avec un petit jeune qui, heureusement, ne réussit pas tout.
Oui, Carlos Alcaraz, 18 ans, récent vainqueur à Miami, a été sorti pour son entrée en lice au Master de Monte Carlo. Défaite contre l'Américain Sébastien Corda. Sans la nouvelle terreur du circuit, sans Nadal, sans Djokovic, le tableau du tournoi monégasque semble plus ouvert que jamais.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du vélo et une belle frayeur pour Julien Alaphilippe. Le champion du monde a dû abandonner sur la flèche brabançonne après une chute provoquée par la voiture de sa propre équipe. Et puis il y a du handball ce soir avec une belle affiche. L'équipe de France accueille l'Espagne.
Merci Martin, c'était le journal des sport de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant. On passe au vert avec Greenpeace France. L'ONG tire la sonnette d'alarme. Ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne proposent un programme contenant les changements radicaux nécessaires pour faire face à l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité, dit-elle sur Twitter. Son directeur général, Jean-François Julliard, sera notre invité dans quelques minutes. À tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h12 sur Europe 1. C'est l'un des sujets qui est un petit peu resté dans les cartons de la campagne électorale, éclipsé par la guerre et le pouvoir d'achat. L'écologie n'a pas beaucoup fait parler et pourtant, on le sait, il y a urgence. Ce matin, le directeur général de Greenpeace France nous livre son avis sur les programmes des deux candidats.
Bonjour Jean-François Julliard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On a beaucoup parlé de la fin du mois depuis le début de cette campagne électorale, un peu moins de la fin du monde. Comment vivez-vous cette course à l'Élysée 2022 ?
Bah mal, très mal, parce que c'est vrai qu'on a eu le sentiment qu'on n'a pas réussi à imposer la question climatique dans le débat pour l'élection présidentielle. Pourtant, on a bataillé dur avec les autres associations environnementales, tout ce qu'on appelle le mouvement climat, pour faire en sorte que ce sujet s'impose un peu plus dans les débats politiques, dans les débats médiatiques, et on n'a pas réussi, et ça nous a questionnés, parce que le climat est une préoccupation majeure des Françaises et des Français. Chaque fois qu'on leur demande leur avis, on voit bien que le climat et l'environnement sont des questions qui comptent, et malgré cela, on n'a pas réussi à faire en sorte que les candidats et les candidates en parlent plus. Alors ça tient à plusieurs raisons, au fait que certains candidats n'en ont pas grand-chose à faire, et que d'autres n'ont pas réussi à imposer ces thèmes-là.
Quand on voit le résultat de Yannick Jadot, par exemple, qui est le candidat d'Europe Écologie Les Verts, à peine 6% au premier tour, on se demande est-ce que véritablement les électeurs sont intéressés aussi par cette question écologique ?
Si, parce que, alors déjà, encore une fois, chaque fois qu'on leur pose la question, la préoccupation environnementale est forte, elle est même souvent au même niveau que d'autres préoccupations qui ont eu beaucoup plus de place dans les débats, comme celle du pouvoir d'achat ou de l'emploi. Et puis, il ne faut pas résumer l'importance de l'écologie au score d'un seul candidat, plusieurs candidats, et c'est ce qu'on a dit avant le premier tour. Plusieurs candidats portaient beaucoup de mesures ambitieuses d'un point de vue écologique. C'était le cas d'Yannick Jadot, c'était le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'était le cas d'Anne Hidalgo. Donc c'est pas simplement les résultats d'Europe Écologie Les Verts. Et puis à l'inverse, c'est vrai que d'autres candidats n'ont rien sur ces sujets-là. Et c'est ce qui nous a amené à dire au lendemain du premier tour que c'était quelque part une défaite pour l'écologie, parce que c'est vrai que dans les deux candidats finalistes, on est loin du compte, selon nous.
On sort d'un quinquennat plein de promesses écologiques, de « make our planet great again » aux engagements de la COP26, mais c'est aussi le quinquennat de la condamnation de l'État pour son inaction climatique, la fameuse « affaire du siècle ». Quel bilan on tire aujourd'hui pour Emmanuel Macron au sortir de ce mandat ?
Ben, nous, on tire un bilan très négatif, et un seul chiffre pour l'indiquer, c'est que la France réduit ses émissions de gaz à effet de serre année après année d'environ 1%, quand elle devrait le faire de environ 5 à 7% si on s'en tient aux recommandations des scientifiques. Ça montre que l'effort accompli au cours de ces dernières années est loin de faire face à l'urgence et à l'intensité de la crise climatique. C'est ce qui a valu à l'État français d'être condamné effectivement à deux reprises dans l'affaire du siècle et dans l'affaire Grande-Synthe pour son inaction climatique. Ça montre que les efforts à fournir dans les années à venir, d'où l'importance de ce quinquennat qui va démarrer, les efforts à fournir dans les années à venir sont colossaux et sont déterminants parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, j'ai envie de dire, parce que chaque fois que le GIEC, les scientifiques du climat, publie un rapport, il rappelle à quel point cette crise climatique, elle s'accélère, elle s'intensifie, elle s'amplifie et qu'à l'inverse, notre réponse collective n'est pas à la hauteur. Et
Emmanuel Macron se rend aujourd'hui au Havre sur le thème de l'écologie. Il va notamment visiter une usine tout juste sortie de l'œuf, l'usine Siemens Gamesa, qui produit des éoliennes en mer. Le président sortant mise beaucoup sur ces éoliennes. Pour vous, ça va dans le bon sens? Il y a de l'espoir ou pas du tout?
Alors, miser sur les éoliennes, oui, ça va dans le bon sens. Miser sur les énergies renouvelables au sens large, ça va dans la bonne direction. Mais j'ai envie de dire, le président Macron essaie de rattraper le coup, mais bien trop tard. La France est le pays qui a pris le plus de retard en Europe sur le développement des énergies renouvelables. Et c'est aussi la faute du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, il y a beau jeu d'aller voir une usine d'éoliennes aujourd'hui. C'était avant qu'il fallait faire. Il a eu 5 ans. Pour tenter de rattraper ce retard, et ça n'a pas été fait. Et à l'inverse, il a promis beaucoup sur la relance et la construction de futures centrales nucléaires, qui pour nous ne sont pas la solution, parce que construire des centrales nucléaires, ça prend trop de temps, et qu'on n'a pas ce temps-là, encore une fois, pour faire face à l'urgence climatique.
Il a expliqué hier, Emmanuel Macron, vouloir enrichir son programme environnemental avec les idées de planification écologique de Jean-Luc Mélenchon, dont on parlait à l'instant, d'économie circulaire de Yannick Jadot. C'est un peu tard pour les entendre, pour reprendre les propositions vertes des autres camps?
Oui, moi, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Là, on sent plus un espèce d'appel du pied vis-à-vis des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot qu'une conviction sincère. Encore une fois, Emmanuel Macron, il n'est pas primo candidat. Ça fait 5 ans qu'on le pratique au quotidien. 5 ans qu'il nous dit qu'il va faire ça et qu'il fait l'inverse ou qu'il ne fait pas, en tout cas, ce qu'il a dit. 5 ans qu'on a entendu des belles promesses, de beaux discours, de grandes annonces sur les questions climatiques et sur les enjeux environnementaux, et 5 ans que les mesures en face sont loin du compte, que les actes concrets sont très très faibles et que ça n'a pas permis de mettre la France sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris sur le climat.
Il va quand même falloir choisir un candidat dimanche 24 avril. Est-ce que Emmanuel Macron, pour vous, est le moins pire ?
Je répondrai à l'inverse. On peut craindre le pire avec Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, on a le sentiment d'être au point mort dans la course pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec Marine Le Pen, on peut craindre qu'on passe en marche arrière, parce que si on en juge, alors pour le coup, on ne la pratique pas au quotidien depuis 5 ans parce que elle n'a pas été chef de l'État, mais si on en juge par son programme, il n'y a rien à se mettre sous la dent sur les questions climatiques dans son programme, et même des choses qui sont extrêmement dangereuses sur les questions énergétiques. À l'inverse, elle souhaite non seulement relancer le nucléaire, mais elle souhaite démonter les éoliennes existantes, ce qui est très honnêtement une aberration et qui va à l'exact opposé de ce que recommandent les scientifiques du GIEC, qui ont publié un rapport il y a une dizaine de jours à peine, qui disait qu'il fallait miser sur les énergies renouvelables, à commencer par l'éolien et le solaire, pour faire face aux dérèglements climatiques. Donc soit elle dit clairement qu'elle n'en a que faire des scientifiques du climat, soit elle reconnaît qu'elle se moque du monde et que cette mesure n'est pas consistante avec ce que demande la science pour faire face à cet enjeu climatique.
C'est quoi pour vous un bon programme écologique à quelques encablures du second tour ?
Nous, un bon programme écologique, c'est celui qui nous explique concrètement quel va être son plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les domaines qui sont les plus importants, à savoir le logement. Comment est-ce que les deux candidats vont faire pour rénover massivement les logements, et notamment ce qu'on appelle les passoires énergétiques, qui sont indécentes pour les personnes qui y habitent et qui sont des vrais gouffres en énergie et donc contribuent à l'accélération de la crise climatique. Comment est-ce qu'on va transformer l'agriculture, qui est aussi responsable de la crise environnementale? Comment est-ce qu'on va réduire la taille des élevages, végétaliser plus notre alimentation? Comment est-ce qu'on va transformer les transports pour sortir de notre addiction à la voiture individuelle? Enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça sur lesquels il faut se pencher. Et pour l'instant, dans les deux candidats finalistes, on ne voit pas ce qui va permettre de transformer notre société pour la rendre plus compatible avec l'urgence climatique.
Le message de Greenpeace France est clair. Merci Jean-François Julliard d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe Matin.
Fanny Marceau et Omblin Roche.
6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
La présidentielle avec le programme des candidats aujourd'hui. Marine Le Pen sera en meeting à Avignon. Emmanuel Macron se rend de son côté au Havre chez Édouard Philippe pour parler écologie. En réponse au duel du second tour, plusieurs centaines d'étudiants se sont mobilisés hier en bloquant les universités à Paris et Nancy, occupant par exemple la Sorbonne. La direction de la célèbre fac parisienne annonce la fermeture du site de Sancier aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Et puis du foot à suivre ce soir avec le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa. Lyon reçoit les Anglais de West Ham, coup d'envoi 21h.
h 20, c'est l'heure de la partition. Omblin, retour le 14 avril 1979 aux États-Unis. The Doobie Brothers culmine une nouvelle fois tout en haut des classements musicaux.
Oui, je vous propose un petit peu d'évasion ce matin, Fanny, de chevaucher une Harley Davidson et de longer la plage de Santa Monica. Cheveux au vent, moustache parfaitement bien taillée pour ces messieurs, les Doobie Brothers. C'est le son typique californien rock jazzy des années 70.
Déjà. Le groupe se forme en 1970 en Californie et plus précisément à San José.
Oui, The Doobie Brothers a quand même la particularité d'avoir été au début de sa carrière le groupe qui assurait l'animation musicale lors des rassemblements des Hells Angels, hein, ce club de motards créé en Californie par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, devenu une organisation criminelle.
Il faut vraiment avoir une bonne dose d'humour pour s'appeler The Doobie Brothers.
Oui, ou être totalement désintéressé par l'image qu'on renvoie. The Doobie Brothers, une allusion directe à la marijuana, comprenez les frères Pétard.
Le groupe a connu pas mal de changements. Hein.
Oui, dirigé par le chanteur et guitariste Tom Johnston d'abord. Ils sont rejoints au milieu des années 70 par Michael McDonald, alors plus qu'un chanteur. Il prend les commandes du groupe, impose ses choix artistiques, une musique plus funk et un répertoire pop fortement teinté de jazz. Le succès est immense en 1978 avec l'album Minute by Minute et notamment grâce au titre What a Fool Believes, récompensé de 3 Grammy Awards, les victoires de la musique américaine, chanson, enregistrement et arrangement de l'année. Came from somewhere back in how long ago. The sound of every fool don't see, trying hard to recreate what had yet to be created.
Et cette chanson, What a Fool Believes, le chef de bande des Doobie Brothers, Michael McDonald, l'a écrit avec un certain Kenny Loggins.
Oui, vous vous souvenez de lui ? Et tu rappelles de son brillant fait d'armes quand même, Kenny Loggins, c'est la chanson phare du film Footloose. Et bien quand il enregistre What a Fool Believes, l'échec est cuisant et quand les Doobie Brothers sortent le 45 tours, c'est un raz-de-marée. Le plus gros succès des Doobie Brothers, What a Fool Believes, numéro 1 aux États-Unis il y a 43 ans, le 14 avril 1979.
Merci beaucoup, Omblin. Restez avec nous sur Europe 1. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. Europe 1.